Père Marius, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, bienvenue, merci.
Voilà, Père, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes un nouvel intervenant sur l'antenne de Radio Maria France avec un thème qui reste peut-être encore un peu mystérieux, qu'il soit un, bien que c'est une formule qui nous parle à nous chrétiens. Père, je vais vous laisser peut-être d'abord vous présenter à nos auditeurs en quelques mots.
Et bien sûr, alors Père Marius Piesic, 41 ans, je suis prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, mais d'origine polonaise. Je suis venu en France en 2008 et depuis, dans le diocèse actuellement, depuis une semaine, je suis curé de la paroisse de la Valette du Var. Mais au niveau de mes études, je suis docteur en théologie écuménique, d'où vient justement ce sujet de l'unité des chrétiens.
Très bien, mais écoutez Père, je vais vous laisser commencer tout de suite cette première émission de rentrée.
Merci beaucoup. Alors si nous prions pour l'unité des chrétiens, c'est car nous obéissons au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui décide quand et comment nous sommes un. Même si nous avons une incroyable capacité à nous diviser. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit qui est la source de toute connaissance et qui nous apprend à prier. Le charisme, lui, c'est quelque chose que le chrétien a en lui. Saint Paul dit ainsi à Timothée, « Ravive le charisme, le don gratuit qui est en toi. » Nous allumons ce charisme en nous, il s'enflamme, mais attention, car il peut aussi s'éteindre. Le charisme s'enflamme, et il s'éteint en nous. Il faut s'assurer toujours qu'il ne s'éteigne pas. Nous pouvons décrire le charisme écuménique en deux mots. Le premier est le mot « parole », « logos ». Au commencement est le verbe, la parole. Il ne s'agit pas d'un livre, il s'agit de Dieu. Il y a une parole éternelle en Dieu. Notons la proximité de deux expressions, logos et dialogos, la parole pour. Si la parole éternelle est en Dieu et si Dieu est la parole éternelle, cela signifie qu'il y a toujours en lui une disposition éternelle à parler, une disposition à rencontrer. En Dieu, il y a la disponibilité, la volonté de la rencontre, le désir de la rencontre. Cela signifie qu'il est la parole. Le fait qu'il soit la parole ne signifie pas, par exemple, qu'il a écrit plus de 70 livres que nous avons rassemblés et que nous appelons la Bible. Dieu a le désir de la rencontre. La Bible en parle. Tout ce moment où Dieu entame une conversation avec un homme. L'un de ces premiers moments commence par la question « Où es-tu ?» Dieu ne sait pas où il est ? Dieu ne sait-il pas qu'il est assis, caché dans le buisson ? Pourquoi demande-t-il ? Parce qu'il veut la rencontre. Ensuite, il y a une autre belle conversation, à nouveau dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu parle avec Abraham du nombre de justes à Sodome. L'une des plus belles conversations entre Dieu et l'homme. Dieu ne sait-il pas qu'il n'y a pas 10 justes à Sodome? Qu'en fait-il? Il n'y en a même pas un, peut-être Lot. Quel est le but de cette conversation? Elle sert à entretenir le lien. Parce que Dieu ne peut pas décider du sort de Sodome sans parler à Abraham, qui est son ami. Cette conversation est amitié et non acquisition de connaissances, de savoir. Dieu n'a pas besoin de savoir d'Abraham combien de personnes sont justes à Sodome, mais Dieu a besoin de confirmer son amitié avec Abraham. Comme auparavant, il avait besoin de confirmer sa relation avec Adam et Ève. La parole que nous recevons de Dieu est pour la rencontre. C'est pourquoi Jean nous dit dans le prologue de son évangile que lorsque Dieu nous a prononcé cette parole, ce fut un moment créatif. C'est la création. L'homme n'est pas entièrement créé si personne ne lui parle. Sans rencontre, aucun de nous existe. Un homme ne peut pas être moi s'il n'y a pas de toi dans sa vie. Je ne suis pas créé jusqu'au bout s'il n'y a personne qui me parle et s'il n'y a personne à qui je parle, s'il n'y a personne qui m'écoute et s'il n'y a personne que j'écoute. Ce toi est totalement indispensable. Ce n'est qu'au début de la conversation que l'homme est créé, car il y a enfin quelqu'un pour vivre. Aucune rencontre humaine, aucun amour humain est fiable. Il n'y a qu'une seule rencontre fiable, c'est une rencontre avec Dieu dans sa parole. Cette rencontre ne nous décevra jamais, et sur la base de cette rencontre, nous survivrons à toutes les crises. Nous traverserons chaque crise, crise de chaque relation, de chaque amour, de chaque amitié, de chaque activité. Nous passerons par chacune de ces crises si nous sommes constamment en relation avec Dieu qui est la parole. Si Dieu nous crée avec sa parole, si c'est un événement permanent, alors c'est que Dieu se soucie de relations et que nous pouvons sauver toutes les autres relations dans la vie. Mais sans cette base, sans cette créativité, ce sera vraiment impossible. Cette première pensée est extrêmement importante, et c'est la parole. C'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne, se concentrer sur la parole, et le silence après la parole. Le deuxième mot important est l'unité. Prenons la première lettre de Saint Jean, dans laquelle il décrit que déjà dans la première génération des disciples de Jésus, il y avait des divisions dans l'Église. Le drame, c'est que quelqu'un a quitté l'Église, qu'il a claqué la porte, et que parmi les frères, il y avait des personnes dont Jean a dit « il n'était pas de nôtre ». La première génération des disciples de Jésus a expérimenté ce que signifie être divisé. Prenons encore la première lettre aux Corinthiens, le premier chapitre où Paul dit « Il m'a été rapporté à votre sujet que chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Une église divisée. Ce que révèle Jean à ce sujet est extrêmement important. Si j'introduis une division, ou si par exemple je confirme la division entre les frères en ne faisant rien pour construire l'unité, ou si je ne suis pas intéressé à savoir si l'Église est une ou non, et si pour la piété de la semaine écuménique, de la semaine des prières pour l'unité des chrétiens en janvier, j'irai prier une fois, peut-être deux fois, si nous avons une telle attitude, Dieu nous en préserve, c'est l'attitude de ce que Jean appelle les antichrists. Car c'est antichrist. Parce que moi j'appartiens à Paul, et moi j'appartiens à Apollos, et moi j'appartiens à Kephas. Et les pires sont peut-être ceux qui disent « et moi j'appartiens au Christ ». C'est-à-dire qu'ils disent « le Christ est uniquement chez moi, ne le cherche ni chez Paul, ni chez Apollos, parce que vous ne le trouverez pas là-bas. » C'est antichrist, parce que ça détourne en fait l'attention de Jésus. Qui est Paul, Apollos, Kephas? Qui sont-ils sans Christ? Aucun d'eux n'est mort pour le monde, pour les gens. Aucun d'eux n'est un sauveur. Jésus le Christ est le seul sauveur. C'est ce que Jean dit alors, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction et vous avez tous la connaissance. L'onction du Saint-Esprit. Et quelle est la connaissance du Saint-Esprit? C'est Jésus, le Seigneur. Ni Paul, ni Apollos, ni Kephas, Jésus. L'unité s'est construite ainsi. C'est la découverte de toute l'Église. Si les frères chrétiens sont divisés, comment peuvent-ils se rencontrer? Comment l'Esprit-Saint construit-il l'unité entre les chrétiens? Cela tient dans cette confession. Jésus est le Seigneur. C'est à propos de Jésus. Jésus est le Sauveur. Plus nous sommes proches de Jésus, plus nous nous rapprochons les uns des autres. et l'unité augmente. Chacun de nous détruit l'unité. Et cet antichrist, celui qui dit « moi, moi, pour moi, après Jésus ». Non, après Jésus, il est le Sauveur. Alors nous sommes ensemble. C'est ainsi que le Seigneur construit l'unité dans son Église. Comme vous pouvez le voir, ces deux mots, la parole et l'unité, s'unissent dans la personne de Jésus-Christ. La parole s'est faite chair, et l'Église est une en Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit, ce qui nous fait dire « Jésus est le Seigneur ». Ces deux réalités se rejoignent en Jésus-Christ. Notre engagement pour l'unité des chrétiens se purifie et se renouvelle continuellement, croissent et mûrissent grâce à l'Esprit-Saint. C'est bien grâce à cet engagement que le chemin peut continuer pas à pas jusqu'au moment où, finalement, nous arriverons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas faire l'unité par nos seules forces. Nous pouvons seulement l'obtenir comme un don de l'Esprit-Saint. La prière, la conversion et la sanctification des vies constituent le cœur de la rencontre et du mouvement œcuménique. La meilleure forme d'œcuménisme consiste à vivre selon l'Évangile. Les divisions qui existent encore entre nous nous empêchent d'être pleinement les signes de l'amour de Dieu. Travailler ensemble pour vivre l'hospitalité œcuménique fera de nous tous chrétiens. Protestants, orthodoxes, anglicans, catholiques, évangéliques, tous les chrétiens. Des êtres humains meilleurs, des disciples meilleurs et un peuple chrétien plus uni. Cela nous rapprochera davantage de l'unité qui est la volonté de Dieu pour nous. Tous, nous sommes chrétiens et pourtant si différents. Entre réformés, catholiques, orthodoxes, anglicans, luthériens, évangéliques, les désaccords sont inévitables. Mais ça n'empêche pas les églises de faire parfois un pas vers leurs voisines, le temps d'une célébration commune ou de réunir leurs forces au service du bien commun, dans le cadre des aumôneries, par exemple. Les églises restent pourtant belles et bien séparées. En quoi l'œcuménisme a-t-il changé depuis sa création il y a plus d'un siècle? Aujourd'hui, les églises protestantes et catholiques historiques ne peuvent plus se payer le luxe de poursuivre les disputes qui ont hanté les deux dernières générations, entre autres sur la question d'une hospitalité eucharistique mutuelle, alors l'accès à la communion. La perception de la communion diffère entre catholiques et protestants. Chez les premiers, on mange et on boit littéralement le corps et le sang du Christ lors de l'Eucharistie, alors que chez les seconds, la scène est symbolique. Le contexte a profondément changé. Les désaccords doctrinaux et confessionnalistes paraissent dérisoires dans une société de plus en plus éloignée de questions religieuses. Quelle voie emprunte alors aujourd'hui l'œcuménisme? Il s'agit de parvenir à faire face à une situation problématique commune. L'enjeu de la religion dans une société sécularisée. Les églises font partie de la société et de la culture. Elles se questionnent donc sur la façon de vivre leur confession de foi chrétienne dans une société post-chrétienne, post-séculaire et aussi post-ecclésiale. Et la question n'est pas résolue. Pourquoi les églises ont-elles cherché à l'époque à faire front commun? Avec la Grande Guerre de 1914, on a assisté à une guerre féroce entre des nations qui se prétendaient chrétiennes. Cela a provoqué un affroi éveillant chez les responsables des églises européennes. Si nous sommes frères, sœurs de foi, Pourquoi cette foi n'a-t-elle pas empêché de telles atrocités? Que fait-on de faux? Faudrait-il que l'on fasse connaissance les uns avec les autres? Concrètement, comment l'œcuménisme s'est-il mis en place? C'est dans les années 1920 que le mouvement du christianisme pratique, d'inspiration luthérienne, et la commission Foi et Constitution, initiée par les Anglicans, voient le jour. Le premier groupe s'attache à la question de l'union à travers l'action concrète et la lutte pour une société plus juste. Et le second se penche sur les questions doctrinales. Ils fusionneront pour donner naissance au Conseil œcuménique des Églises en 1948, situé à Genève, qui est aujourd'hui un instrument politique permettant les échanges entre les Églises occidentales et orientales. Avec la Seconde Guerre mondiale également, des résistances s'est créées et des rassemblements voient le jour face au totalitarisme politique. Il y a donc un parallèle avec la situation actuelle. L'exigence du contexte qui est plus grande que de petites disputes et pousse les chrétiens à se rassembler. C'est dans les années 1960 que le mouvement connaît finalement son succès. Il prend de la vitesse avec le Concile Vatican II, un concile qui se voulait dès le premier jour œcuménique. Il est le symbole de l'ouverture de l'Église catholique au monde moderne, mais aussi aux autres églises. Les années 1970-80 sont synonymes de grandes déclarations officielles communes. Et en 1999, à Augsbourg, l'Église catholique et deux fédérations protestantes, rejointes ensuite par d'autres, signe une déclaration sur la justification par la foi qui précise que l'humain est sauvé par la grâce de Dieu. Elle clôturait un grand questionnement qui était une des pierres d'achoppement entre les différentes traditions. L'œcuménisme ne s'attache donc plus à gommer ou trouver des accords doctrinaux. Il y a toujours la possibilité de mettre le focus sur ce qui sépare. On est ainsi séparés, mais conscients de ce qui nous rassemble. On peut aussi choisir de mettre le focus sur ce qui nous rassemble, tout en restant conscient de ce qui nous sépare. Les questions doctrinales restent importantes, car si on ne trouve pas de solution au rapprochement œcuménique, celui-ci est bâti sur du sable. Mais les questions auxquelles on est incapable de répondre disparaissent dans l'urgence. Dans la pratique pourtant, le rapprochement des communautés et des gens se réalise. En quoi l'œcuménisme est-il aujourd'hui encore une nécessité? Nos paroisses, ou plutôt une certaine forme de vie paroissiale, meurent. Je le dis bien sûr avec tristesse, car de choses admirables ont été faites par le passé. La vie sociale d'un village passait par la vie paroissiale. Et ce n'est plus le cas, ou c'est un cas de plus en plus rare. Les engagements sociaux et caritatifs se perdent par la force de choses. Quant aux aumôneries communes entre protestants et catholiques, par exemple, au sein des hôpitaux, des prisons ou de l'armée, elles font face à une pluralité de confessions. Parfois, dans les hôpitaux, les patients cherchent juste à avoir une présence à leur côté. Il s'agit donc de s'organiser autrement et de tenir compte de l'exigence économique aussi. Mais l'avenir est bien dans l'œcuménisme. Depuis 1908, les chrétiens continuent d'ailleurs de se rassembler du 18 au 25 janvier pour une semaine de prières pour l'unité chrétienne. La semaine de l'unité chrétienne a survécu, mais elle a perdu aussi l'enthousiasme qui l'animait à l'époque. Elle reste pourtant un événement symbolique. la laisser tomber enverrait d'ailleurs un signal négatif. En quoi les enjeux des chrétiens en Occident diffèrent-ils du christianisme oriental? Après la chute du bloc de l'Est, les églises orthodoxes ont repris un certain essor, mais ont encore du mal à retrouver leur place dans la société. Et puis, surtout en Russie, en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays d'Europe orientale, il y a surtout un mélange entre politique et religion qui est questionnable. Quant au Moyen-Orient, on ne peut que s'interroger sur l'avenir des églises syriaques ou chaldéennes dans leur pays. C'est pourtant en Irak, Syrie ou encore en Égypte que l'on trouve le christianisme le plus vieux du monde. Mais il est aujourd'hui dispersé. La destruction de cette tradition chrétienne est entre autres le résultat de politiques occidentales. Aujourd'hui, ce sont des questions de survie qui occupent ces chrétiens et non les différences entre les confessions. En retenant le symbole de l'eau constamment présent dans la Bible, eau baptismale, eau du lavement des pieds, nous pouvons retracer l'histoire du mouvement œcuménique en ayant recours à la métaphore du fleuve qui se coule depuis sa source jusqu'au delta. Alimenté progressivement tout au long de son cours par des ruisseaux qui représentent les églises qui ont rejoint successivement le mouvement et se sont réunis au sein du Conseil œcuménique des églises. Le fleuve débouche sur un delta dans lequel nous nous situons aujourd'hui. C'est un milieu fragile et fluctuant, caractérisé par la difficulté de trouver un chemin d'unité qui ne peut être qu'une communion dans la diversité. Nous retiendrons de cette histoire parmi les principaux points positifs. L'engagement des églises de plus en plus nombreuses à s'impliquer dans le mouvement, la multiplicité de rencontres, des dialogues bilatéraux entre les églises, qu'elles ont suscité non seulement au niveau interconfessionnel, mais aussi intraconfessionnel, les rapprochements auxquels ceux-ci ont plus ou moins conduit, leur complémentarité avec les dialogues multilatéraux avec plusieurs églises en même temps, de même qu'entre dialogues régionaux et internationaux. Le résultat de ces dialogues a permis une évolution des positions doctrinales de chacun des acteurs, qui a conduit à la notion de consensus différencié, consistant à dissocier la doctrine de son expression verbale. Ceci a permis la signature de bon nombre d'accords, parmi lesquels on peut déjà citer la Déclaration commune sur la doctrine de la justification entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale en 1999, à laquelle se sont ralliés depuis d'autres églises. Mais on ne doit pas non plus occulter le point de désaccord qui subsiste, comme les problèmes de lunatisme entre catholiques et orthodoxes, les différends sur les baptêmes qui demeurent avec la Fédération baptiste, et surtout la question de l'ordination et des ministères qui, si celle-ci a pu être résolue avec leur interchangeabilité entre les grandes traditions issues de la Réforme, reste un point d'achoppement entre protestants et catholiques orthodoxes. De même que la question de la succession apostolique et de la primauté de l'évêque de Rome. Il semble, malgré cela, que la doctrine apparaisse aujourd'hui moins séparatrice que les questions éthiques qui conduisent à des prises de position tranchées et différenciées. Paradoxalement, sur ces questions, les positions entre traditions de confessions différentes peuvent être plus proches qu'entre les différents courants au sein d'une même confession. C'est précisément dans un tel contexte de récomposition auquel sont confrontées les Églises aujourd'hui, notamment entre chrétiens évangéliques et catholique. Faisant suite aux avancées de la démarche œcuménique au niveau des théologiens et des institutions, et en même temps face au défi de la sécularisation et de la recrudescence des persécutions antichrétiennes, on observe un triple recentrage. Sur le message, dans la référence centrale, les kérigmes chrétiens portés par l'Évangile, sur les pratiques dans l'expérience partagée de la prière et de la lecture de la Bible comme lieu de mise en pratique de la foi, et troisièmement, sur les espaces avec l'investissement de nouveaux territoires à travers lesquels s'exprime un témoignage évangélique et éthique commun. Le rassemblement à caractère ponctuel, les groupes musicaux, le cyberespace font partie de ces espaces qui réunissent le jeûne. Un autre lieu d'interpellation des églises provient de leur origine même, le judaïsme. N'importe quelle religion a besoin du face-à-face avec l'autre pour approfondir sa raison d'être, et les dialogues interreligieux, en obligeant à reformuler à cause de l'autre ce qui paraît évident et source d'enrichissement. Ceci est d'autant plus vrai entre juifs et chrétiens dans la mesure où il y a une antériorité de premier, le juif étant nos pères dans la foi, selon le pape François. L'Église catholique poursuit un dialogue œcuménique avec toutes les églises chrétiennes, mais que celui-ci était de nature différente avec chacune d'elles en fonction de l'origine des scissions passées. Il adressait en une brève synthèse historique un tableau très clair de la position de l'Église catholique face aux différents issues de séparation passées qui subsistent entre elle et les autres familles chrétiennes. Essentiellement sur la question christologique avec les églises précalcédoniennes, sur la question de la primauté et de la synodalité avec les églises orthodoxes, ayant conduit aux anathèmes réciproques de 1054, sur les questions ecclésiologiques, le rôle de l'évêque de Rome avec les églises issues de la Réforme, dans la mesure où les communautés catholiques et orthodoxes étaient les plus proches doctrinalement, il leur appartient d'établir en premier leur unité. Mais aujourd'hui, l'Église catholique est engagée dans un quatrième type de dialogue, notamment avec les églises pentecôtistes, qui, hors des questions dogmatiques, portent sur la façon d'appréhender le christianisme. Ces églises, en effet, avant de se concevoir comme telles, se présentent davantage comme de mouvements charismatiques. Se pose alors la question du but du mouvement œcuménique, c'est-à-dire de la compréhension du sens de l'unité recherchée. Si pour les catholiques, les orthodoxes, il s'agit de la recherche de l'unité visible fondée sur la pratique des sacrements, telle n'est pas la conception de ceux qui prônent une ecclésiologie différente, influencée par la réalité postmoderne qui érige le pluralisme en valeur s'opposant à une unité considérée comme néfaste. Mais la foi chrétienne n'est pas plurielle. Elle ne subsisterait pas sans l'expression de son unité, dont le meilleur témoignage est porté aujourd'hui par les martyrs victimes de persécutions. Dans ce contexte qui entraîne la nécessité qu'une nouvelle réflexion sur le sens de l'œcuménisme, l'Église catholique maintient qu'il ne peut y avoir d'alternative à la recherche de l'unité hors de trois dimensions sur lesquelles est fondée la démarche œcuménique. Et voici ces trois dimensions. La prière, la conversion antérieure avant d'exiger la conversion de l'autre, et la mission. Nous pouvons aussi mentionner quatre voies d'accès au dialogue œcuménique qui peuvent se révéler à la fois comme frein mais aussi comme facteur d'accélération du dialogue œcuménique. Premièrement, la Bible, après l'éthique, après la vie sacramentelle, et enfin la vie en communauté. Et c'est particulièrement le cas de la Bible qui fut par le passé et encore aujourd'hui, sous certains aspects, alors canon des Écritures, traduction, lecture littérale ou herméneutique, statut des Écritures par rapport à la magistère, un sujet d'achoppement entre les églises de confessions différentes, mais qui est devenu, surtout depuis le Concile Vatican II, un facteur de renouveau œcuménique et de rapprochement. Il faut montrer que la lecture de la Bible, non plus individuelle, mais en commun, par exemple le groupe de lecture interconfessionnelle, et a fortiori son étude, constituait des chemins d'unité. Par son contenu, par le travail exégétique qu'elle suscite et la recherche d'une traduction commune, la Bible est en effet un lieu de rencontre et de débat entre les différentes traditions chrétiennes, ayant grandement contribué au développement du dialogue œcuménique. La traduction œcuménique de la Bible, la Tob, en est le fruit. De même que les résultats de recherches bibliques qui ont en outre bénéficié de retombées du dialogue judéo-chrétien. Mais chacune des traditions doit faire face dans sa propre famille à ceux qui prônent une lecture fondamentaliste, qui est un défi contre la foi elle-même. Avec l'éthique, on aborde par ailleurs un sujet sociétal beaucoup moins consensuel qui est également source de différends intraconfessionnels. Les questions éthiques sont devenues en effet aujourd'hui incontournables dans le débat entre chrétiens, primant même sur les questions dogmatiques. Nous pouvons évoquer un protestantisme multiple et divisé sur ces questions, en citant par exemple la fracture entre Église historique et évangélique qu'a entraînée au sein du protestantisme la possibilité de bénir le couple du même sexe. Par contre-coup, on assiste à un rapprochement entre catholiques et évangéliques sur ces sujets. Il en est de même sur les questions de bioéthique et de fin de vie, peut-être encore plus clivantes, par rapport auxquelles chacun des croyants développe une vision personnelle qui peut être en contradiction avec la position officielle de sa propre Église. Du point de vue des orthodoxes, nous pouvons préciser que le débat sur les questions éthiques qui touchent à la nature même de l'homme est intrinsèque au christianisme, en tant que religion incarnée. Il doit être pensé en termes de salut de l'humanité récapitulé par le Christ sur la croix, et donc par rapport à la nature humaine incarnée par le Christ. Celle-ci définit une anthropologie qui, au-delà du religieux, a une dimension sociale et politique, comme par exemple la défense du modèle traditionnel de la famille en tant que projet politique. Le grand défi pour le christianisme réside dans la possibilité ou non de s'exprimer d'une seule voix dans une société déchristianisée, ce qui pose la double question de recomposition au sein du dialogue œcuménique et de possibilité de témoigner ensemble. Je vous remercie de votre écoute et nous pourrions nous rencontrer dans un mois. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Père, et on vous retrouve le mois prochain pour la suite de cette émission. Qu'ils soient tous un. Merci infiniment. À bientôt.